Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont et puisque c'était le Festival de Cannes, Ici Montferrand va remettre ses palmes aussi. Alors je ne sais pas si ce sont des palmes académiques, mais en tout cas ce seront des trophées qui vont être décernés. Très symboliquement bien sûr, on va revenir sur la saison de l'ASM Clermont qui n'a pas toujours été rose ou du jaune et bleu le plus éclatant. Avec à mes côtés Christophe Buron, Frédéric Guiverna et Didier Crot. Bonjour messieurs.
Salut Greg, salut à tous.
On a déterminé 4 catégories. On va vous parler du match de la saison, du plus bel essai de la saison, du défenseur de la saison et du joueur le plus marquant, le joueur de la saison pour l'ASM Clermont. On va commencer par le match de la saison. Pardon, on parlera aussi des top flops de la saison. Et puis on fera le quiz de la saison. Encore autre chose. Le match de la saison, c'est un match, pas le plus beau match forcément de l'ASM, mais en tout cas un match symbolique. Didier, toi tu as choisi lequel ?
J'ai choisi une défaite à l'extérieur, parmi les 12 défaites à l'extérieur, celle à Montpellier le 5 mars.
Donc là on est en top 14.
Celle à Montpellier le 5 mars sur le score de 34-3. C'est un match qui a symbolisé un peu la faillite totale de cette équipe loin de ses bases cette saison où elle a été souvent hors match et un signe indigne quoi de ce qu'elle aurait dû produire. Et c'est à l'issue de ce match que Curios a été très en colère. C'était vraiment le match où il a eu du mal à contenir son désappointement. Un match vraiment symbolique des difficultés rencontrées cette année par cette équipe loin de ses bases.
En même temps, vous êtes nommé nouvel entraîneur. Votre équipe prend 34-3.
Mais au terme d'un non-match où ils avaient tout fait mal.
Face à une équipe qui a fini derrière et qui est champion de France et qui finit derrière la SM en plus. Hein. C'est pas un ogre.
Ouais, c'est vrai. Ouais, bien sûr.
Et ils avaient une équipe pour une fois qui tenait la route sur le papier.
Tu fais bien de mettre quand même en avant les faiblesses de l'ASM à l'extérieur. On en a parlé lors d'un précédent podcast. Clairement, avant-dernier dans cet exercice, derrière une équipe comme Brive, par exemple, à l'extérieur. C'était pas la plus belle saison, on va dire, à l'extérieur pour l'ASM Clermont. Christophe, ton match de l'année, pour toi, c'est lequel ?
Alors pour moi c'est un match à domicile, mais c'est pas un point positif. C'est le match contre Bayonne ici, qui est pour moi le match qui fait entrer l'équipe dans une dimension et dans une spirale négative, et au final qui en est que rarement sorti ou par intermittence. Mais ce jour-là, on a touché du doigt la faiblesse de l'effectif. Alors il manquait énormément de joueurs. Je crois que ça approchait la vingtaine. Mais perdre contre le promu à la maison, alors que John O'Gibbs avait fait à l'intersaison, je crois savoir, de longs exposés sur le Michelin, sur la forteresse que devait redevenir ce stade. C'était le premier gros accro à domicile.
C'est le match de la bascule.
C'est le match qui fait tout basculer. Je pense que là, c'est à partir de là, c'est un peu parti
un peu en travers,
en vrille. Donc cette défaite à Bayonne et à la sortie, elle coûte très très cher.
À domicile, tu veux dire ?
À domicile,
ouais, comme Bayonne.
Tout à fait. Et on se rend compte que Bayonne a été un peu le bourreau de Clermont cette année. On va pas revenir sur la défaite il y a 15 jours à Jean Daugé, à Bayonne, mais sans ces deux défaites et avec 6 points de plus, l'ASM jouerait le top 6. Voilà, je crois que tout est dit.
Pour une équipe qui au final a terminé 8e de la saison régulière Bayonne.
Qui a fait une belle saison, tout à fait.
Qui a fait une belle saison, mais bon, pas une saison non plus. Mais
inattendu même.
Ouais, inattendu, mais qui aurait parié sur deux défaites de l'ASM contre Bayonne cette année, quoi.
Ouais. Fred.
Bah moi c'était le même match, mais je vais voir le verre cette fois
à
moitié plein, donc je vais en prendre un autre. Je trouve que c'est pratiquement le seul match de championnat que l'ASM a réussi de la première à la dernière minute. C'était la réception de La Rochelle. Alors ça remonte à loin. C'était le début de saison, c'était au mois de septembre. C'est une victoire 22-13 contre une équipe de La Rochelle. Bon, évidemment on ne sait pas à ce moment-là qu'elle gardera son titre de champion d'Europe, mais c'est une composition quasi type hein, de La Rochelle.
Qui était venu pour gagner.
qui était venu pour gagner. Et là, on avait
les Rochelais, pardon, qui ont 9 défaites en top 14 cette saison pour 17 victoires.
Ouais, voilà, ça fait un début de saison compliqué d'ailleurs pour les Rochelais, qui ont eu du mal à
digérer
la machine. Ouais. Pour autant, il y avait eu un vrai match. Je crois qu'on l'avait écrit à ce moment-là. C'était un match quasiment de phase finale. Hein. Ça donnait cette impression au Michelin.
En termes d'intensité, d'engagement.
En termes d'intensité. Et je crois que c'est Jules Plisson qui avait été le bourreau de ses ex-partenaires à ce moment-là. Bon, les choses ont bien changé par la suite.
Je voyais pas forcément opiner du chef Christophe.
Je mettrais juste un bémol sur ce que vient de dire Fred par rapport à ce match. C'est le meilleur match de la saison, je suis d'accord, en termes d'intensité et d'implication défensive et tout. En termes de jeu, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais il l'avait emporté sur le fait de repousser cette grosse machine qu'est La Rochelle. Ça, c'est sûr, c'est probablement leur plus gros combat relevé cette saison. Mais en termes d'animation et de jeu, je suis un peu plus circonspect.
Oui. Il a marqué 12 points sur pénalité Jules Plisson dans les 25 dernières minutes de cette rencontre. La victoire pour Clermont. Voilà pour les matchs de l'année. Maintenant, on va passer à l'action de l'année, le plus bel essai de la saison. Pour toi, Didier, c'est lequel ?
Eh ben, ça ne sera pas un essai.
Une action, toi, alors.
Ça sera plutôt une action qui, là aussi, symbolise la capacité de cette équipe à perdre les pédales. C'est le plaquage à la gorge de Yato qui venait de rentrer, qui avait quelques secondes de jeu. Donc, on peut pas dire qu'il était cramé, qu'il était dans le rouge. Il rentre et il assène un plaquage à la gorge sur un baïonnet là, il y a 15 jours, qui coûte un carton jaune, qui coûte... On va pas dire que c'est à cause de lui que Clermont a perdu, évidemment, puisque... Mais quand même, à ce moment-là, c'était la 70e minute, je crois, un truc comme ça.
C'était 71e.
71e minute.
Et tu menais 18-11, voilà. Et tu perds 21-18.
Et là, ça n'a fait qu'accélérer le processus d'autodestruction de cette équipe-là qui a fini par perdre, alors qu'elle avait tout le match en main, quoi. Et c'est la capacité de cette équipe à s'autodétruire sur cette action qui était vraiment symbolique. Je pense qu'il l'a payé un petit peu parce qu'il n'était pas dans la composition hier. Je pense qu'il a dû payer un petit peu les conséquences de ce geste. Et d'ailleurs, Ituriel l'avait bien allumé en conférence de presse aussi, après le match.
Donc c'était une action symbole pour toi, Didier. Christophe ?
Tu parlais d'un essai, de l'essai de l'année. Alors ma mémoire fait peut-être défaut. Il y a probablement des essais plus beaux que les autres. Mais j'ai envie de retenir un essai, c'est celui de Baptiste Jeuneau ce dimanche contre le Racing. Non pas qu'il soit.
Non, c'est un essai de demi-mêlée, quoi.
Un essai de demi-mêlée, ouais. De filou. Mais je trouve qu'il est symbolique de l'éclosion de ce garçon. C'est vraiment la révélation de l'année. Et pour prendre l'expression d'Urios, c'est peut-être le symbole du trait d'union avec la saison prochaine. Donc c'est lui qui va, à mon avis, qui va être attendu comme un des leaders, un des cadres, et encore une révélation de la saison prochaine. Et c'est vrai que cet essai montre que ce joueur peut devenir dominant et un joueur très important de l'effectif la saison prochaine.
On en parlera de Baptiste Jeuneau, je pense, dans la suite de ce podcast. Toi, pour toi, Fred, l'essai de l'année ou l'action, d'ailleurs.
C'est plutôt un essai. C'est l'essai de Damien Penaud à Bristol. Le deuxième essai, d'ailleurs, de Damien Penaud à Bristol, puisqu'il avait inscrit un doublé ce jour-là. Vous voyez, c'est ce long ballon tapé le long de la touche qui est a priori perdu. Et le joueur de Bristol dont j'ai perdu le nom... attend le dernier moment pour essayer d'aplatir dans l'embut
et n'aplatit pas.
Il y a surtout toute la persévérance de Damien Penaud qui y croit jusqu'au bout et qui parvient à aplatir, et c'est l'essai de la victoire. Je retiens cet essai parce que il n'y a pas eu beaucoup d'émotions positives côté ASM cette saison, et ce match en fait partie. C'était un match plutôt sympa à regarder. C'est l'une des rares victoires à l'extérieur, qui plus est. Et puis c'est les derniers feux d'un joueur qui s'apprêtait à quitter l'ASM.
On va pas faire le bilan de la carrière de Damien Penaud à l'ASM. On en a déjà consacré un podcast à Damien Penaud récemment. En revanche, juste pour revenir sur sa saison, c'est quoi votre sentiment sur la saison de Damien Penaud ? Un peu trop absent, peut-être. On l'a pas assez vu. On aurait aimé le voir plus.
Inconstant,
intermittent. Intermittent, ouais. Du spectacle.
Un petit peu, ouais, c'est vrai. Alors, il y a eu une blessure qui est intervenue à un moment un peu charnière là, après le tournoi. Mais c'est vrai que moi, c'est surtout le début de saison que j'avais trouvé assez décevante. Ça.
Bah, c'est surtout après la tournée de novembre, jusqu'à sa décision de s'en aller, il était quand même. Il était un peu à la ramasse, hein. Ouais. tout le monde.
Il n'était pas au niveau.
Après novembre et décembre, là, ça n'a pas été top.
On ne peut pas s'empêcher de penser que de corréler ça à la décision qu'il devait prendre, c'est-à-dire son avenir et la signature du contrat de son futur club.
D'autant plus que tout le monde l'attendait. Il fallait cette décision. Ouais.
Ah bah,
ça s'est fait attendre. Quoi.
C'est pas faute de lui avoir posé la question quand on arrivait à l'attraper.
Ok, merci messieurs pour l'essai d'action de l'année. Là, on a créé une catégorie un peu particulière. On n'en parle pas forcément en rugby. C'est une catégorie qui existe au basket notamment. J'avais envie qu'on s'arrête sur les soutiers, les joueurs peut-être un peu plus de l'ombre, et désigner le défenseur de l'année, celui qui vous a le plus marqué dans ce secteur. Toi, Didier, tu retiens quel joueur ?
Bah, ça sera peut-être Lucas Dessaigne, là, qui a été assez constant dans son registre. Je me souviens de quelques matchs où il y avait des stats. Quelques stats, mais alors je me souviens plus précisément, mais il y a eu des stats assez phénoménales.
Contre La Rochelle.
Contre La Rochelle, oui, c'est peut-être bien.
Plus de 20 plaquages.
Ouais, voilà,
le match gagné à domicile. Hein.
Voilà, ouais, exactement, tout à fait. Oui. Et où il avait surnagé le truc, là, enfin, vraiment, avec une implication, une intensité. Il a été longuement blessé suite à une commotion là, donc il a mis sur la touche pendant de longues semaines, presque 2 mois, mais quand même dans ce registre là il a été souvent impressionnant.
Messieurs, si on fait le bilan là aussi de la saison de Lucas Dessaigne, vous en diriez quoi? Ah, je vous ai laissé bouche bée là.
Intéressante, hein, c'est un garçon qui est rarement décevant. Il est dans un registre de joueur de l'ombre, hein, comme tu disais tout à l'heure, et qui a de l'activité, qui n'a pas une dimension athlétique phénoménale, mais qui fait des choses plutôt intéressantes. C'est un vrai joueur de club.
Et puis c'est un enfant du pays aussi.
C'est un enfant du pays.
C'est pas négligeable.
Pour toi, Christophe, le défenseur de l'année ?
Bah, moi, ça reste Fritzi, qui est, je pense, le meilleur plaqueur de cette équipe, celui qui conteste le plus de ruck, qui doit voler le plus de ballons au sol. Donc, pour moi, c'est un incontournable. Même si, dans son bilan et en termes de statistiques, c'est compensé malheureusement par beaucoup de fautes, beaucoup de pénalités qu'il concède, peut-être même de turnover, mais Fritzi, c'est quand même depuis 10 ans. Un sacré numéro de cette équipe.
Fritz Lee, forcément, il est, je ne vais pas dire sur le déclin, mais en tout cas, il est un peu plus âgé, il a 34 ans.
Il est plus près de la fin que...
Oui, voilà.
Je ne sais pas si c'est le déclin, mais en tout cas, il est sur une pente qui n'est pas ascendante.
J'ai trouvé une manière élégante de le dire, quoi, mais bon, je n'ai pas réussi. Sa saison est satisfaisante quand même, ou il commence franchement à marquer le pas? Vous en pensez quoi?
Non, il reste incontournable dans cette équipe.
Ouais. Le gros problème de Fritzic, c'est qu'il n'avait pas de joueurs sur lesquels le staff pouvait s'appuyer pour le remplacer. Quoi.
Complètement.
Il a longtemps joué, de longues saisons, il a été il jouait beaucoup. Quoi, et c'est vrai qu'il s'est peut-être un peu plus usé qu'un joueur.
C'est sans doute la différence aujourd'hui, c'est qu'il aurait besoin d'être relayé plus souvent, certainement. Mais moi, je trouve qu'il a fait une super saison. Même, pour tout dire, je ne l'attendais pas à ce niveau-là sur la saison. Globalement, c'est une des satisfactions de la saison.
Il finit un peu sur les rotules, hein, Bayonne. Il finit à l'heure de jeu, il est dans le rouge, il coûte beaucoup de points. Alors, c'est vrai que c'est sûrement dû à... En fait, qu'il a beaucoup joué, et puis bon, et puis l'âge, et puis...
Et puis c'est l'avant-dernier match de l'année, quoi.
Oui, non, mais c'est sûr que le fait qu'il n'y ait pas de turnover digne de ce nom à ce poste-là, fait qu'il a tiré sur la corde, quoi. Donc...
Pour toi, Fred, le défenseur de l'année ?
Eh bien, moi, j'ai mis Thibaut Lanin, qui a eu un temps de jeu assez énorme sur la saison. Je crois que c'est le troisième du club en termes de minutes jouées. Donc, pour un deuxième ligne, c'est évidemment considérable. Ce qui explique sans doute qu'il soit 11e du top 14 au nombre de plaquages réalisés. Mais ça s'explique évidemment par ses performances, c'est une chose, mais surtout par le poste qui était totalement sinistré par les blessures cette année. Mais je trouve que malgré ça, c'est un des gars sur qui Christophe Furios a pu compter sur cette fin de saison, notamment à des moments où on se disait mais où est-ce qu'il va trouver des deuxièmes lignes dans son équipe.
Heureusement qu'il était là.
C'est clair. Et qu'il a réussi à enchaîner les matchs. Hein. C'est 24 matchs, dont 21 comme titulaire.
Il n'a jamais été blessé, hormis un accident domestique à une main. Donc c'est quand même exceptionnel dans ce club de passer par la case infirmerie classique.
Ouais, et et encore une fois à ce poste-là aussi.
À ce poste-là,
forcément
oui,
très exposé. Fait, ouais.
Ce ne sera pas le joueur de l'année décerné par ici Bonferrand, on va dire dans sa majorité. En revanche, je crois que toi, Didier, tu voulais le mettre en avant, Thibault Lanin, c'est ça ? C'est ton joueur de la saison ?
Oui, tout à fait. Oui, parce que pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure, là, c'est-à-dire que par sa constance, par sa régularité, par son abnégation, par le fait qu'il a jamais fait des super matchs, mais il est jamais tombé en dessous d'un certain niveau, donc une constance dans la performance. Oui, c'est devenu un vrai joueur de top 14, hein, et qui a fait sa place lentement, sûrement, qui a profité, grâce aux blessures, absences de Lavanini, de Vamina, de Paul Gédrasia qui ont accumulé les pépins, et ben lui, il a toujours répondu présent, et ça reste donc une grande, grande satisfaction de la saison. Ouais.
Il a 25 ans, Thibault Lanin, il a été formé à Clermont, même s'il est originaire de
Mende.
De Mende. Ça fait partie de ces joueurs formés au club qui donnent satisfaction, en tirent satisfaction aujourd'hui ?
Ah bah, le rapport qualité-prix, là, il n'y a pas... Oui, c'est sûr que...
Ouais. Tout à fait. Et la famille est un bon filon, parce que je crois savoir que le petit frère se débrouille très bien en catégorie inférieure de jeunes.
À suivre, on regardera ça. Joueur de l'année, donc Thibault Lanin pour toi Didier, mais pour Christophe et pour Fred, vous vouliez mettre un autre joueur en avant, et là il n'y a pas beaucoup de surprises. Je vous écoute.
Ah non, mais alors je vais laisser Baptiste Jauneau à Fred, et moi je vais en prendre un autre.
Ah, t'as décidé, ah, très bien.
D'accord.
Changement de dernière minute, le joueur de l'année sera désigné par Fred.
Non, il y a... alors c'est dans un registre un peu différent, je vais mettre en exergue Étienne Fourcade.
Très bien, pour quelle raison?
Pour la raison suivante, c'est...
Parle bien dans le micro, pardon.
Pardon, oui.
Oui.
Il a eu un début de saison compliqué. En plus, Jonah Gibbs ne lui a pas fait forcément confiance sur ce début de championnat. Mais c'est déjà arrivé dans le passé récent. Il a dû finir en raison des blessures à ce poste, qui a quand même été une calamité. Hein. À un moment, il n'y avait plus que lui. Il y a eu... Pélissier s'est blessé, Berigaray, Boudou, il y a maintenant un mois et demi, je crois, ou peut-être deux. Donc, il a tenu la baraque, il joue quasiment 80 minutes par match. Il a une activité hors norme. Alors, seul petit bémol, c'est des fois son manque de précision au lancer en touche. Il a besoin peut-être de travailler, d'être un peu plus régulier, d'avoir de meilleures mains dans ce secteur particulier. Mais en termes d'engagement, d'activité, de ballon porté, parce qu'il gagne beaucoup de mètres quand même avec le ballon, malgré une dimension athlétique pas phénoménale. D'ailleurs, quand Urios arrive, il a tout de suite dit « s'il y en a un qu'il faut garder, c'est celui-là », alors que... il était en attente de contact avec l'extérieur. Il n'y avait pas de prolongation de l'ASM avant que Urios arrive. On était parti pour garder plutôt, je crois, Boudou, Berigaray, qui était encore sous contrat. Et puis là, donc, l'arrivée de l'Australien, il n'était pas question d'en garder un quatrième. Et Urios a dit non, et celui-là, je veux le garder. Donc voilà.
C'est vraiment un homme de Christophe Urios dans cette saison, parce que je rappelle quand même, il a joué un match le 3 septembre et puis il a rejoué le 13 janvier en Champions Cup et le 21 janvier en Champions Cup, et tout le reste de ses
matchs. Il a eu une blessure qui l'a handicapé, il a peut-être eu du mal à revenir, et puis il a eu, voilà, il n'était pas...
Il y a eu une rechute,
il a eu une rechute
à un mollet, je crois.
Ouais.
Mais c'est vraiment Christophe Urios qui l'utilise cette saison, pour le coup.
Ah ben là, sur la fin de saison, oui, depuis qu'il est là, c'est son homme de base.
Il n'était clairement pas dans les plans de John Gibbs et de Dato. Et de Dato, hein, parce
c'est d'ailleurs pour ça que, voyant qu'il n'y avait pas de prolongation, vu qu'on ne lui faisait pas de proposition, il avait été voir un peu ailleurs, hein, il avait des contacts ailleurs.
Il avait mis le nez à fenêtre.
Ouais.
Il a joué 15 matchs cette saison, Étienne Fourcade, 11 en top 14, 2 en Champions Cup et 2 en Challenge Cup. On va terminer avec toi, Fred, qui va donc décerner le...
Quelle surprise.
Le prix, oui, effectivement.
La palme d'or est donc décernée.
Et on l'écoute.
Baptiste Jauneau, ce qui peut surprendre, dans la mesure où il a été que 11 fois titulaire, c'est pas non plus le joueur qui a le temps de jeu le plus conséquent. On a du mal, à l'échelle de la saison, à le considérer comme un cadre indiscutable de toute la saison. Mais on a eu l'impression d'assister progressivement à l'avènement d'un très grand joueur. C'est pas vraiment une surprise, non plus. Ça fait un petit moment qu'on nous en parle. Au club, qu'on nous demande même d'ailleurs, au tout début on nous demandait de pas trop en parler, tellement on sentait que cette
pépite,
de pas trop en faire, voilà. Tellement on sentait que ce joueur avait un potentiel assez conséquent. Il a commencé, on peut dire, la saison quasiment numéro 3 dans la hiérarchie, même si on se doutait qu'il y aurait match très rapidement avec Kevin Viala, et puis il se retrouve à être titulaire du poste et avoir au-delà de ça les clés du camion ASM. On peut même d'ailleurs être surpris des propos assez directs de Christophe Furios à ce sujet. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les paroles du coach. C'est le patron, il l'a dit, de l'ASM de demain et quasiment d'aujourd'hui. C'est phénoménal à son jeune âge. Il a quasiment jamais déçu. Il y a eu des matchs compliqués pour son équipe, mais quand vous avez un demi de mêlée qui sort du lot sur des matchs compliqués pour derrière un pack qui recule, par exemple, c'est qu'on peut se dire que ce demi de mêlée là, il a quand même quelque chose en plus.
Est-ce qu'on peut parler quand même de son âge, parce qu'il a 19 ans, c'est quand même, tu l'as dit, mais c'est quand même très très jeune.
Surtout à ce poste-là.
Ouais. Très jeune, non, pas... Enfin, c'est jeune, mais très jeune. Les grands joueurs, à 19 ans, quand ils ont la vitesse, c'est déjà des grands joueurs. Donc, non, c'est pas... La jeunesse doit pas être un frein au fait qu'il puisse être mis en avant. Dupont, il est clos à quel âge, à peu près à cet âge-là.
À peu près pareil, à 19-20 ans.
Âge, hein. Donc, les grands joueurs, les très bons joueurs, ils sont au-dessus du lot très, très bien... À cet âge-là, déjà.
Le point positif pour lui, c'est que, à son âge, lui a été offert le temps de jeu qui lui a permis, sans doute, sur ces 6 derniers mois, de gagner en maturité et de gagner du temps sur ce qui doit devenir très rapidement à l'ASM. Quoi.
Ouais.
C'est-à-dire devenir le patron.
Ce sera un des hommes de base, ou voire même l'homme de base de l'ASM la saison prochaine.
Bah là, en plus, il a compris qu'il avait la confiance totale du coach. Hein, même quand, ouais. Quand Béziers était pas, quand il n'était pas blessé, hein, il était plus souvent titulaire que l'ancien Toulousain. Oui.
Oui, c'est devenu une évidence. Oui, il n'y a plus de photo entre les deux. Ouais.
Est-ce que on peut faire un parallèle avec Morgan Parra, ou est-ce que ce sont vraiment deux joueurs différents? Qu'est-ce que vous en pensez?
Complètement différent.
Complètement différent. Ouais.
À tous les niveaux.
Ouais. Jono, il a la vitesse que n'avait pas Parra. On peut pas dire que Parra c'était un fer à repasser, hein, loin de là. Mais Jono, il a la vitesse, et c'est dans le rugby moderne quelque chose qui est tellement précieux. Il a pas le jeu au pied aussi précis et aussi long que Parra, mais il a la vitesse, et ça c'est...
Il tire pas au but, mais par contre je trouve que dans ses sorties de camp et tout, il a quand même une...
C'est vrai, il a progressé. Ouais.
Il a une belle longueur de pied qui sera...
Une belle longueur de pied, ouais. et même au niveau stratégique, j'ai envie de dire, ouais. On a vu que le garçon quand même était solide, et je pense que là-dessus, on mesurera jamais peut-être assez l'importance de la saison dernière et de la passation de pouvoir peut-être justement qu'il y a eu entre Morgan Parra et Baptiste Jono à entraînement. Les deux sont exprimés sur le sujet, on les avait interrogés la saison dernière, mais il y a eu un apprentissage qui ne se mesure pas forcément sur les... qui se voit pas pendant les matchs, mais qui s'est fait beaucoup à l'entraînement.
Aux différences, Christophe, hein ?
Non, je pense qu'après, est-ce qu'il va être capable de progresser par rapport à un Parra dans l'emprise qu'il peut avoir sur les avants ? Je pense que là, ça va venir, mais... C'est pas naturel comme chez Parra, à 19 ans, il commandait les gros à Bourgoin, hein, et c'était des drôles de gros.
Ouais, c'est vrai, mais sur le match, ce dernier match de la saison contre le Racing, j'étais surpris, j'ai focalisé quelques instants mon regard sur Baptiste Jono. Je trouve que dans les instructions, dans l'autorité en tout cas, il a déjà fait des progrès conséquents. Alors effectivement, je suis d'accord avec Christophe, tu sens que c'est pas quelque chose de naturel, mais on peut imaginer que le staff le pousse à aller dans ce sens-là, mais là il a fait des progrès conséquents là-dessus.
Puis le respect, il le gagnera il l'a gagné déjà sur le terrain, en montrant que c'était un leader déjà sur le terrain, et donc à partir du moment où il le montre sur le terrain, ses coéquipiers vont forcément plus facilement aller dans son sillage, hein, que s'il peinait et que s'il était à la peine. Et...
On a hâte en tout cas de voir Baptiste Genot et ses prestations avec la future équipe de l'ASM. Clairement, on va passer au top flop. Et je vais te demander, Didier, pour toi, ce sera un top de la saison ou un flop de la saison?
Ça sera plutôt un top pour l'aviron bayonnais qui, pour un promu, a fait une saison. Qui à mon avis sur laquelle ils n'espéraient pas hein, finir 8e invaincu à domicile. Ils ont une défaite chez eux, mais c'était à Saint-Sébastien autant que je me souvienne, contre Pau.
J'ai cru que tu allais dire invaincu face à Clermont, ce qui est vrai aussi
donc ils ont toujours gagné à Jean Daugé dans leur entre en produisant du jeu avec les éléments dont ils disposaient, avec les armes dont ils disposaient, avec un Camille Lopez qui a retrouvé une deuxième jeunesse en Pays Basque. Non, c'était un bon rayon de soleil dans ce top 14, hein, c'est l'aviron bayonnais là.
Rayon de soleil basque donc pour toi, Didier. Christophe, top ou flop de la saison?
Alors moi je vais rester dans le cercle SM, dans la sphère.
Ça va pas être un top.
Et c'est pas un top, c'est un flop. Non, c'est l'impact des deux ouvreurs qui ont été recrutés l'année dernière et notamment dans l'exercice des tirs au but, et Jules Plisson et Anthony Bello sont vraiment en dessous des standards qu'on attend d'une équipe ambitieuse dans le top 14. Je crois que c'est en dessous de 68%. C'était 68,4 les deux réunis avant le match la dernière journée, donc c'est forcément en dessous.
Ça n'a pas été beaucoup mieux.
Vu la réussite de Plisson contre le Racing. Et c'est vrai que y a un delta énorme entre ce qu'on a connu, ne serait-ce que l'année dernière, avec deux buteurs qui étaient plus proches des 90. Avec Lopez et Parra, là on est vraiment tombé très bas et ça a un impact énorme sur. Alors évidemment qu'en termes de points perdus, c'est pas comptablement, ça fait pas forcément gagner tous les matchs qu'ils ont perdus, ça c'est sûr. Mais en termes de stratégie, de confiance dégagée, l'impact est énorme. Et c'est vrai que là c'est une réelle déception que ces deux joueurs n'aient pas réussi à gagner, réussi à avoir la confiance pour avoir une réussite supérieure.
Leur fragilité psychologique aussi a été inquiétante pour l'avenir, hein, parce que ce soit Bello à Bayonne qui est passé complètement à travers, et puis dont on a vu qu'il est sorti du match, et Plisson hier, une faculté à sortir des matchs qui est inquiétante pour l'avenir, parce que quand même quoi. Donc,
est-ce que
c'est pas des perdreaux de l'année, donc.
Oui, bien sûr. Vous pensez que pour les matchs qui comptent ou pour les matchs importants, Christophe Furios va s'appuyer sur plutôt sa recrue à ce poste-là?
Sur les matchs importants, je pense que dès le début de saison, il va s'appuyer sur Rode Pelita. Ouais. Ça, c'est évident. Ouais. Enfin, je pense. Hein. Notamment, ça peut expliquer ce manque d'impact des buteurs ouvreurs sur les défaites à l'extérieur. À l'extérieur, si vous n'avez pas un bon numéro 10 qui enquille et qui va gérer au pied comme il faut. Est-ce qu'ils ont des qualités, les deux, mais des qualités différentes, des carences un peu différentes aussi, mais on ne peut pas faire un mixte des deux, malheureusement.
Non. Et tu ne peux pas faire jouer les deux en même temps?
Non. Ça pourrait.
Non, mais pas à 16 en tout cas.
Non, mais c'est ce qu'on avait dit, deux 10 moyens ne font pas un très bon 10.
Ouais. Voilà, c'est clair. Donc, et c'est ce qui peut expliquer en effet ce peu de performance à l'extérieur.
Ok, merci Christophe. Top ou flop pour toi, Fred?
C'est un flop. C'est une autre chose qui a marqué aussi la saison de l'ASM, ce sont les attaques, les sorties médiatiques d'Alexandre Lapendry et de Sébastien Vahamina cette saison. Donc les affaires sont très différentes l'une de l'autre, mais pour autant, elles ont un point commun, c'est qu'elles ternissent quand même l'image du club. Ces deux joueurs emblématiques, hein. Il y en a un qui est encore dans les effectifs, hein, d'ailleurs de l'ASM, à savoir Sébastien Vahamina, mais on se dirige là aussi vers une triste fin de carrière, et c'est dommage on doute pas des difficultés que traversent ces deux joueurs. C'est des situations qui sont terribles pour l'un comme pour l'autre, mais on ne peut que regretter que ces deux joueurs aient la possibilité de sortir du bois. Je pense que Il y a certainement, et on sait qu'il y a d'autres situations assez comparables dans d'autres clubs, mais si les joueurs ne le sortent pas, c'est sans doute qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire, qu'il y a des clauses dans leur contrat qui leur empêchent de prendre la parole comme ces deux joueurs ont pu le faire, aussi peut-être alimenté par des avocats parfois qui ont pris la défense, et c'est normal, c'est des joueurs qui doivent être défendus aussi dans des situations contractuelles qui sont difficiles, mais pour le coup, vis-à-vis du club, un club qui est pourtant en pointe sur ce sujet des commotions, ça a été, je trouve, quelque chose de dur et d'assez terrible.
Si on met ces deux joueurs de côté, et puis le cas particulier de l'ASM de côté, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que le top 14, que le championnat, les instances, prennent assez en compte ce fléau, ce problème des commotions cérébrales ou pas ?
Pas du tout. Enfin, c'est ce sport en général, mais de toute façon,
ça progresse pas.
Tout le monde est ça
progresse
à dose homéopathique, ouais. Et le terme,
ça progresse,
est juste.
Ça progresse dans la prise en charge des joueurs, je pense, dans tous les clubs. Hein. L'ASM en effet est en pointe sur beaucoup de choses. Et d'autres clubs doivent l'être aussi maintenant par rapport à la prise en charge du joueur qui est commotionné avant de le remettre le week-end d'après. Après, c'est la législation, c'est les lois, c'est les règles de ce sport. Quoi. Est-ce qu'on va pouvoir éviter ça ? Et puis les dégâts, on les connaîtra peut-être que dans quelques années. Hein. On commence à avoir des signaux d'alerte, hein, avec des joueurs qui annoncent aujourd'hui souffrir de démence précoce. Hein.
Ouais, bien sûr.
Des joueurs étrangers, notamment, j'ai plus en tête là, mais ça, c'est vrai que ça peut être inquiétant. Ouais.
Ok, merci messieurs. C'était oui. Tu voulais, non, c'est bon. Je veux savoir si tu voulais ajouter quelque chose ou pas. Il y a le effectivement, on peut aussi penser à l'exemple du foot américain qui a fait beaucoup de ce point de vue, mais après aussi.
Le hockey aussi au Canada, voilà, je crois.
Après avoir eu beaucoup de cas.
Ce qui est terrible, c'est qu'on sait que de toute façon, au niveau des instances, ça ne progressera véritablement que le jour où on vivra un drame, quoi. C'est-à-dire un mort sur un terrain, et on espère évidemment ne jamais se retrouver dans cette situation.
On arrivera un jour à 3 commotions ou 4, je sais pas combien, et fin de carrière, quoi. Enfin, comme en boxe, hein, je crois que.
Ce qui pose un problème, c'est en plus, c'est que c'est souvent sur l'après-carrière où tu vas le payer. Et là, ouais, l'après-carrière, les projecteurs sont plus sur vous. Donc,
tout à fait.
C'est difficile.
C'est des dégâts qui peuvent se déclarer bien plus tard. Hein, ouais. Tout ce qui concerne le cerveau, c'est pas forcément immédiat.
Ok, merci messieurs, on va terminer bien sûr avec un quiz, et ça tombe bien parce que Fred, tu m'as dit j'aurais dû réviser mon Damien Penaud juste avant le podcast,
donc ce sera un peu trompé, ce
sera une question Arthur Ituria. On va terminer donc la saison avec Arthur Ituria, capitaine de l'ASM, et je vais vous demander la date précise de sa naissance, s'il vous plaît.
94, mais alors
avril.
Non, c'est plus récent.
Vas-y,
mais
c'est au mois de mai, non ?
Si, oui, c'est
au mois de mai. Mais... Comme ça,
le 11 mai, t'es à deux jours près.
13 mai.
Bien joué, 13 mai. Il est né où, Arthur Ituria ?
Bayonne,
bien joué. Bayonne. Effectivement. En quelle année il est arrivé en espoir à Clermont ?
2012.
Bien joué, Christophe. 2012 pour Arthur Ituria. Combien il a joué de matchs en top 14 ?
100. C'était son centième hier.
Et combien de matchs il a joué avec l'ASM ?
128.
Non.
141.
Non.
Je l'ai écrit pour toi.
138.
134.
125. 125. Il en a joué combien comme titulaire ?
97, je crois. Non.
Oui, mais là, il en a joué un hier.
98.
Bien joué, Fred. Bien joué, Christophe.
Bien l'avoir lu.
Ok. Combien il a marqué d'essais avec Clermont ?
C'est pas 6 ?
Non. C'est plus.
15.
20.
C'est moins.
15. 12.
11.
C'est plus.
13.
13. Bien joué, Fred. 13 essais. Lydie, tu dois faire mieux sur ce quiz parce que c'est un quiz que j'ai tiré d'un de tes articles. Il a combien de sélections en équipe de France ?
15.
15.
15, bien fouillé. Combien de fois titulaire en équipe de France en bleu ?
9.
Non, plus.
12. 12.
Plus.
13.
13 fois titulaire. Question. Cette sélection en bleu était entre quelle et quelle année ?
17 et 19.
Bien joué, Christophe, entre 2017 et 2019. Et on va terminer. Il était remplaçant et c'était la date de son premier match en top 14 avec Clermont.
La Rochelle ?
La date.
Ah, la date en 2015. Été 2015.
2015.
Oui, août 2015. Okay. Quel jour
2015. Première journée de championnat.
Oui, mais quel jour
à Rochelle
26.
Moins.
24.
C'était plus et c'était c'est plus ancien encore.
12 août.
Non, c'était
15 août.
Non, c'était le 22 août.
Il marque un essai, je crois d'ailleurs.
Ah bah c'était ma dernière question. Bien joué Didier. Alors là, c'est le super jackpot pour Didier qui a réussi à donner la réponse avant même la question. Il s'était passé quelque chose de particulier effectivement ce jour-là. Il avait marqué un essai à Arthur Ituria qui a disputé donc son dernier match avec l'ASM Clermont. Merci messieurs pour cette saison de Top 14. On en a profité, même si tous les instants n'ont pas été faciles. Merci à Martial Delecluse qui a présenté ce podcast de Main de Maître. Merci aussi à Emmanuel Caillot. Et ben j'espère qu'on se retrouve dès la saison prochaine. Bon été à vous. Ressourcez-vous. Profitez-en.
Oui, c'est... Merci.
Au revoir à tous.
Allez, ciao.